14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, le face-à-face.
Vous êtes bien sur Sud Radio en ce mercredi 1er juillet. La France est belle, elle a un peu chaud aujourd'hui, mais elle reste une destination privilégiée pour ceux qui l'aiment et qui ont envie de l'aimer. C'est pour ça que j'ai demandé à Didier Rickner, qui est le fondateur et directeur de la Tribune de l'Art, donc il représente l'art français. Il a souvent témoigné sur cette antenne de questions liées à l'art, notamment Notre-Dame de Paris et autres. Didier Rickner, si j'ai besoin aujourd'hui de votre savoir et de votre connaissance, c'est pour expliquer à ceux, alors il y a ceux qui restent tous les jours toujours en France l'été, ceux qui varient entre l'étranger et la France, et puis je disais que j'ai envie de lancer un appel du 1er juillet en France, parce que bien sûr la France est des beaux paysages, ce sont des beaux séjours, ce sont des endroits confortables où on voit de belles choses, où on a une belle gastronomie, où on a des vins, mais il y a un patrimoine artistique et culturel qui mérite en lui-même, en soi, de rester, et même si c'est pas la totalité des vacances, ça mérite, comme dirait le guide Michelin, ça vaut le voyage. Est-ce que ce patrimoine architectural, culturel, artistique, ça peut être des œuvres d'art, ça peut être des bâtiments, est-ce qu'il est vraiment aujourd'hui bien préservé et accessible à tous?
Alors, accessible à tous, une grande partie est accessible à tous, oui, parce que la beauté des paysages est accessible à tous, la beauté des villes est accessible à tous. Beaucoup d'églises, par exemple, sont ouvertes à tous.
Pas toujours.
Pas toujours. Alors ça, c'est un regret. Il y a des endroits où elles sont ouvertes.
J'ai souvent trouvé la porte fermée.
Bien sûr, non. Alors ça, il y en a beaucoup qui sont ouvertes et on ne sait pas pourquoi. Il y a des endroits où elles sont toutes ouvertes et des endroits où elles sont fermées. Et moi, je me bats pour qu'elles soient ouvertes parce que aussi bien les responsables du patrimoine, les architectes disent qu'il faut ouvrir les églises parce que déjà ça aère, donc ça évite qu'elles s'abîment. Pour les vols, c'est un très mauvais calcul de les fermer parce que c'est plus facile de voler une église fermée parce qu'on s'en aperçoit pas. Les policiers vous le diront. Simplement, il faut quelques mesures de sécurité,
précaution,
de fixer les heures, etc. Mais il faut ouvrir les églises. Mais il reste que dans beaucoup d'endroits, elles sont ouvertes. Et puis, quand elles sont pas ouvertes, on peut toujours essayer de les faire ouvrir. Il y a toujours quelqu'un qui a la clé. C'est compliqué. Et des fois, je râle à cause de cela. Mais bon. En tout cas, oui, c'est accessible à tous. Est-ce que c'est bien préservé? Est-ce que c'est, ça, c'est une autre question. Et hélas, on entre dans une ère où le patrimoine est de moins en moins bien préservé. Et c'est lamentable parce que, comme vous le dites, la France est magnifique. Il y a des œuvres partout. Je dirais que c'est le deuxième pays après, alors dans les pays occidentaux, parce qu'il y a beaucoup de choses évidemment en Asie, mais en tout cas, en Europe et aux États-Unis, c'est le pays qui a le plus de patrimoine artistique. Après l'Italie, bien sûr. Bon, l'Italie reste quand même...
C'est un musée, ce pays est une
tendresse particulière pour l'Italie. Mais la France est un pays exceptionnel. Maintenant, il faut le conserver comme celui-ci. Et malheureusement, il y a beaucoup de coups de boutoir contre ces dernières années et ces derniers jours même qui le menacent.
Alors, procédons par ordre. Il y a bien sûr des activités artistiques vraiment liées au tourisme. Alors, ça peut être un certain nombre de musées. On l'avait évoqué quelques fois avec vous, des musées inconnus qui méritent d'être découverts dans des préfectures ou des sous-préfectures un petit peu excentrées. Et il y a un patrimoine de monuments historiques magnifiques, bien sûr. On pense au château de la Loire, mais il y a d'autres. Alors il y a partout des manoirs, des abbayes qui se visitent. Et il y a un patrimoine artistique et culturel. Cette totalité, il y a le patrimoine architectural. Est-ce que partout où on va, on peut trouver une diversité culturelle qui permet d'avoir une vision générale? Voilà, il y a de l'œuvre d'art, il y a des beaux murs, il y a des vieilles pierres, il y a des monuments, il y a de l'histoire.
À peu près partout, oui. Même dans les pays, dans les endroits où ça a été le plus détruit par la guerre, comme le nord de la France ou la Normandie, il y a des choses exceptionnelles. Vraiment partout. Il y a des petites églises, je pense. Prenons à des choses auxquelles personne ne pense. Dans le Cotentin, que je connais assez bien, il y a des petites églises. L'église de Cras, par exemple, CRAS. Personne ne connaît ce village. Vous rentrez dans l'église de Cras et vous voyez des boiseries 18e extraordinaires dans toute l'église. Et ça, c'est absolument pas connu. Et c'est magnifique. Donc, partout, vous avez des choses fantastiques. C'est pour ça, quand on nous dit, on va rapprocher l'art des gens vont envoyer les œuvres des grands musées dans les provinces reculées. C'est une espèce de paternalisme qui est assez agaçante. Parce que tout le monde peut avoir accès à l'art.
Il y en a partout.
Partout.
Où qu'on aille. Petites églises, manoirs, je vous disais, abbayes. Il y a un réseau. Est-ce que la France a bien mis en valeur son patrimoine? Alors, on a souvent des panneaux, des indicateurs, il y a de la communication, des régions, des départements, bien entendu. Est-ce que quelqu'un qui dirait « je reste en France cette année », quelqu'un qui n'a pas envie forcément de rentrer dans un élitisme artistique, vous voyez, quelqu'un de, voilà, j'allais dire le français ou le français moyen, qui veut découvrir son patrimoine culturel, il y a de quoi faire et c'est facile à accéder.
Ça dépend. Alors, je regrette toujours qu'il n'y ait pas en France l'équivalent. En Italie, il y a un guide qui s'appelle le guide du Touring Club Italien. italien. Dès que vous rentrez dans une église, vous savez ce qu'il y a. Presque, il y a presque tout été et répertorié. En France, c'est plus difficile.
Il y a quelques publications quand même, notamment le guide vers Michelin a longtemps
été...
Oui,
mais le guide vers Michelin, quand vous rentrez dans les églises, il peut y avoir des tableaux très importants, il ne vous le dira pas.
Il ne vous mentionne pas.
Bon, ça c'est autre chose. Mais par exemple, pour savoir ce qu'il y a, par exemple, il y a des routes. Je pense par exemple du côté de Troyes.
Je pensais à ça.
Voilà Troyes, la route des vitraux.
La route des vitraux.
Voilà. Voilà. Donc là, les églises essayent, les mairies essayent d'ouvrir les églises justement pour que les gens qui veulent visiter ces églises, donc il y a un parcours. Donc ça existe un peu à peu près partout, mais pas suffisamment encore, pas suffisamment encore. Quand on parlait des villes à visiter, je pense par exemple à Troyes. Troyes est une ville exceptionnelle.
Et un musée
exceptionnel,
formidable.
Alors elle a eu la chance pendant très longtemps de ne pas être très riche, donc il n'y a pas eu beaucoup de travaux. Donc c'est une ville qui a été très bien préservée.
Une vieille ville déjà très impressionnante.
Voilà, avec beaucoup d'églises, avec beaucoup d'œuvres dans les églises, des sculptures exceptionnelles, des vitraux bien sûr, je viens d'en parler. Et il faut reconnaître que beaucoup d'églises à Troyes sont ouvertes, on les ouvre, voilà.
Pourquoi Troyes? C'est une ville très importante au Moyen-Âge, capitale politique de la Champagne.
Et beaucoup, la Renaissance également, c'est pour ça qu'il y a énormément d'œuvres.
Une foire très célèbre, et un patrimoine architectural et artistique
exceptionnel,
très conséquent.
Alors, mais bon, ça, je vous parle de Troyes, je pourrais vous parler
non,
de...
Non, mais c'est vrai qu'on va vous dire, je vais peut-être pas aller passer mes vacances à Troyes dans l'Aube.
Ça serait dommage, parce que Troyes...
Trois
et toutes les églises qui sont autour, les villages qui sont...
Toute la vallée de la Seine.
C'est extraordinaire, mais vraiment. Et je pense que ça vaut le coup d'aller à Troyes et tout, dans les environs, mais ce n'est qu'un exemple. Et je n'ai aucun
intérêt. Non,
je prends Troyes parce que ça m'avait frappé.
On n'en doute pas, c'est l'instant d'y
aller. Je suis allé il n'y a pas longtemps, il y a une exposition intéressante là sur les vitraux à Troyes. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a évidemment le patrimoine qu'on voit en permanence, et puis aussi des expositions et les musées en province. Moi, je dis toujours province, je dis pas région, je dis encore moins territoire. Province, c'est très beau.
Il n'y a aucun péjorativisme à dire le mot province.
Ont parfois des expositions très intéressantes. Bon.
On rappelle que c'est une formule latine qui veut dire le vaincu d'à côté, provincier. Mais pour l'instant, pour nous, ça désigne des territoires historiques avec des provinces historiques qui ont fait les gloires de la France.
Je reviens dans le Cotentin, par exemple, le musée Thomas-Henri, qui est dans un bâtiment très laid, faut le dire.
Mais
le musée
à Cherbourg.
Cherbourg au Cotentin, mais non, moi je préfère dire Cherbourg.
Non, c'est Cherbourg. En plus, je vais vous le dire, Cherbourg n'est pas dans le Cotentin historique.
Bon, alors
voilà,
ça, je ne savais pas.
Puisque le Cotentin, c'est ce qui est autour de Coutances, voilà. Et je suis désolé, le territoire qui est lié à Coutances, donc ni Avranches ni Cherbourg, qui sont à l'extrémité du département de la Manche, qui est très long, ne sont dans le Cotentin historique. Voilà.
Ils ont changé de nom, c'est absurde. Cherbourg est une ville qui n'est pas d'une beauté extraordinaire, parce qu'il y a quand même eu des bombardements, évidemment. En tout cas, il y a derrière le théâtre très beau, un théâtre à l'italienne. Ça aussi, c'est voilà un patrimoine important, un théâtre à l'italienne très beau du 19e siècle, quand on dit 19e siècle. Eh bien, vous avez le musée qui a été construit dans un bâtiment, lui, assez laid, mais le musée Thomas-Henri est d'une richesse formidable. Et il y a quelques années, il a été entièrement refait. Et alors que quand j'y étais allé, il y a très longtemps, c'était vraiment, vous voyez des fils qui pendaient partout. Là, c'est magnifique. Et vous avez une exposition qui vient d'ouvrir, qui est très intéressante à visiter, qui s'appelle la figure de Satan dans l'art du 19e siècle, que je recommande. Si vous êtes dans le coin, allez la voir. Voilà, vous avez des expositions un peu partout. Vous avez Amiens vient d'ouvrir une exposition sur les dessins français des 17e et 18e siècles dans les collections particulières. Donc vous verrez des œuvres que vous ne verrez pas ailleurs, puisque déjà les dessins, c'est difficile de les voir, ils sont souvent dans les cabinets de dessins, on ne peut pas les exposer en permanence. Mais là, ce sont des dessins conservés dans des collections particulières qui les prêtent au musée d'Amiens. Et je concerne le musée de Picardie d'Amiens, encore un très beau musée. Vous avez des choses partout, c'est vraiment extraordinaire.
Donc
à Paris, autour de Paris et très loin, en Provence évidemment, vous avez des villages fantastiques. À Nice, vous avez des églises baroques. Vous avez à Bordeaux actuellement une exposition qui vient d'ouvrir que je n'ai pas encore vue sur Jean Dupas, un grand peintre d'art déco. Mais Bordeaux est une ville admirable du 18e siècle. Enfin bon.
Partout. Les régions à haute fréquentation touristique ont leur patrimoine culturel aussi, la Provence, la Côte d'Azur, le Languedoc, la Bretagne, on vient d'en parler à l'instant, la Normandie aussi. Donc on peut être sur place en vacances. Pour des raisons tout simplement de villégiature, et pouvoir accéder. Souvent, on oublie que pas loin de là où on se trouve, mais même si on est dans un camping, et pourtant je vois que des gens, quand je suis sur ces endroits-là, des gens qui disent « Ah ben nous, on est au camping, on est venu voir, on a vu qu'il y avait, que ce soit l'abbaye du Toronnet ou autre, il y a toujours une destination, une activité à faire. »
Tout le temps, il y aura. Vous avez une voiture, vous avez toujours un village à voir, et des fois des églises qui ne sont pas dans les guides, rentrez dans les églises, allez voir, il y a des fois des tableaux, des sculptures que vous ne connaissez pas. Alors je peux faire un peu de publicité pour mon site, la Tribune de l'Art.
Et comment, bien sûr.
Donc j'ai sur la Tribune de l'Art, par exemple, moi je suis passionné par les œuvres des églises qu'on voit, mais donc je vous disais tout à l'heure.
C'est un vrai trésor ou non? Oui. Dites-le, le trésor des églises en France.
Extraordinaire.
Moins que l'Italie, d'accord.
Moins que l'Italie, mais on n'a pas à rougir. La Révolution est passée par là.
Voilà.
Mais le Concile Vatican II, enfin l'application par l'Église de France du Concile Vatican II est passée par là. Il y a eu beaucoup de destructions, mais il reste des choses exceptionnelles.
Comment ça? Attendez, en quoi le Concile Vatican II a engendré des destructions?
Alors en France, il faut savoir, on le sait peut-être peu, mais c'est
la séparation des Églises et d'État, je veux bien.
C'est en 1905, le Concile Vatican II en France a eu une application pas du tout en Italie. Donc c'est pas le Concile Vatican II qui est en cause. C'est l'application par l'Église de France dans les années 60-70. On a détruit les hôtels, on a détruit les chaires, on a supprimé les tableaux, on a le plus grand vandalisme en France.
Vous parlez de destruction matérielle, physique.
Matérielle, physique, je parle de ça, oui, bien sûr.
Eric Kner, c'est terrifiant ce que vous
C'est
dites.
Terrifiant, tout à fait.
Et sur instruction de l'épiscopat?
Ah bien, tout le monde le faisait, toutes les églises
mais
le faisaient.
Mais à quel titre, des
églises? Ils pensaient que ça leur appartenait, ça ne leur appartenait pas, c'était illégal. Mais dans les années 60-70, le plus grand vandalisme en France, depuis la Révolution française, c'est dans l'église.
Attendez, parlons bien. Vous parlez d'une mesure de rétorsion de l'église à la suite de Vatican II qui ne...
Non.
Pourquoi détruire?
Pas rétorsion. Vatican II disait, il faut simplifier l'église, il faut la pureté, etc. Donc, toutes ces constructions, la chair, parce qu'on changeait la liturgie, la chair ne servait plus, donc on la détruisait. Et les hôtels, je vous assure, non mais
on frôle le calvinisme qui interdisait que justement des représentations artistiques.
Non mais c'est terrifiant ce qui s'est passé.
Voir les musulmans qui interdisent la représentation de Mahomet, c'est terrible.
Que vous ne connaissiez pas ça prouve que beaucoup de gens ne doivent pas connaître ça.
Ah mais je pense que ça a été dû. Je sais qu'en 1905, à la CIA, il y a eu des tragédies parce que l'État s'est approprié, mais il les a gardés.
Oui, mais bien sûr, c'est dans les années 60, début des années 70, l'Église de France a été le plus grand vandale en France, et c'est pour ça que je regarde quand il continue à le faire, par exemple à Notre-Dame.
Eh bien, voyez, au détour d'une émission que je croyais très positive, il y a cet aspect inquiétant. On va en dire un petit peu plus. Vous restez avec nous, je suis avec Didier Rickner, donc directeur de la Tribune de l'Art, et nous suggérons avec Didier Rickner à ceux qui restent en France d'en profiter pour découvrir, ou de rester spécialement pour ça, de découvrir ce patrimoine architectural, culturel, artistique qui est absolument prodigieux. Pas autant que l'Italie, d'accord, elle a beaucoup d'avance, mais on n'a pas à rougir. Vous nous appelez au 0826-303-300, vous avez certainement des questions à poser parce que vous-même, vous connaissez un patrimoine ou vous voulez mettre en valeur une église, un manoir, un château, un monument historique que vous avez, dont vous avez envie de parler, vous nous appelez sur Sud Radio. Emmanuel Galasso transmettra votre appel et Didier Rickner, s'il le connaît, dira ce qu'il en pense, appréciera. À tout de suite sur Sud Radio.
Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Legas.
Vous êtes bien sur Sud Radio, il est 13h19 et je reçois Didier Rickner, directeur, fondateur, et je rappelle qu'il est fondateur quand même parce que c'est récent, et donc il dirige la Tribune de l'Art, et j'ai demandé à Didier Rickner de venir sur ce plateau aujourd'hui, 1er juillet, voilà, au début des vacances, notre dernière émission est demain. Je voulais finir, pas en beauté, mais je veux dire finir sur des considérations positives sur notre patrimoine, dire qu'on a la chance d'habiter un pays qui a des ressources merveilleuses, et notamment sur le plan culturel et d'héritage, qui est l'homme de l'art, c'est le cas de le dire, partage avec nous cette passion et nous donne l'envie de rester en France, et si on avait prévu de rester en France, de profiter de l'endroit où on se trouve pour aller découvrir ce merveilleux pays. Didier Rickner, vous nous disiez justement que votre site propose justement des destinations.
Oui, alors ce que je voulais effectivement dire, c'est qu'il y a beaucoup de patrimoine qui n'est pas connu, et je suis passionné par le patrimoine dans les églises, dont on disait...
C'est ça qui est
exceptionnel,
intéressant.
Des tableaux formidables.
Découvrir, c'est formidable de découvrir.
Voilà. Et malheureusement, ils sont pas répertoriés dans les guides, parce que c'est compliqué de faire un guide, parce que ça coûte cher, je ne sais pas. Donc moi, je crée depuis très longtemps, j'adore les bases de données, je fais une base de données sur les œuvres, alors essentiellement les œuvres dans les églises françaises. Et donc voilà, je
alors
rentre.
Qu'est-ce que vous expliquez? Vous expliquez l'histoire?
Je rentre la photo la plupart du temps.
D'accord,
je rentre
visuellement.
Et je renvoie vers une ressource bibliographique, comme ça les gens qui veulent en savoir plus peuvent le faire. Et puis surtout, ça permet quand on rentre dans une église, on passe à côté d'une église, on regarde si elle est dans la base. Alors évidemment, il y a beaucoup de manques, parce que c'est quelque chose que je ne terminerai jamais, hélas, et qui
tant
est
mieux,
très partiel.
Tant mieux.
Mais quand on est près d'une église en France, on peut regarder est-ce que j'ai noté. Et là, on peut rentrer dans l'église et voir qu'il y a des œuvres qui sont répertoriées au moins
d'accord,
dans ma base.
Comme voilà. Les fameuses vidéos que l'on donne dans les musées quand on arrive, là on va sur votre site et on a une explication, on a un descriptif. Est-ce qu'on peut le consulter en avant, à savoir je vais en Bourgogne.
Alors, le seul bémol, évidemment, il faut bien vivre, c'est que c'est uniquement pour les abonnés à la Tribune
oui,
de l'Art.
Oui, d'accord. Mais bon, voilà. C'est ça, ça coûte combien?
Ça coûte 95 euros par an.
Par an.
Ça va. Ou 9, 8 euros par mois.
Mais ça vous ouvre la porte à des destinations, surtout que c'est très important ce que vous dites, qui sont pas forcément connues et à côté desquelles on pourrait passer
voilà.
Si on n'a pas l'information.
Exactement.
Qu'elle se trouve. Et je pense que ce genre d'opportunité ne manque pas. Dans
partout,
pays.
Je dis, il y en a voilà. Partout. Et dans les plus petites églises de France, il y a des œuvres d'art que, alors il y a des bases publiques qui existent, hein, le Valspad ici que j'utilise beaucoup. Mais alors, la manière dont les œuvres sont répertoriées est plus compliquée pour un profane.
Où aller cet été? Où aller cet été? Ben, vous consultez le site de Didier Ickner. Rappelez-moi le nom.
La Tribune de l'Art.
La Tribune de l'Art. C'est donc, il porte le même nom que votre revue.
Ben, ce n'est qu'un site, hein.
C'est
uniquement en ligne.
On n'est qu'en numérique. Donc raison de plus pour aller, voilà, pour avoir plus de facilité pour y aller. Didier Ickner, ce patrimoine que nous vantons, vous et moi, et pour lequel nous encourageons nos concitoyens et nos concitoyennes, nos compatriotes, à visiter, soit en faisant leur destination exclusive, soit en profitant de leur présence dans tel endroit de France pour le visiter. On disait au début de cette émission, est-ce qu'il est bien préservé? Stéphane Bern a reçu une mission officielle. On le sait inquiet. Vous connaissez Stéphane Bern, vous participez avec lui à cette démarche. Où est-ce qu'on en est de cette initiative de préservation du patrimoine?
Alors, la mission de Stéphane Bern, je ne le dirai jamais assez, est d'utilité publique et c'est très important. Malheureusement, le patrimoine est menacé parce que c'est pas uniquement le problème de du financement. Et le financement, j'ai des idées que je dis régulièrement, mais sur laquelle je dois revenir éventuellement. Mais surtout là, il y a une attaque de plus, contre le patrimoine, sachant que, il faut reconnaître, alors que Giscard d'Estaing, François Mitterrand, etc., avaient la protection du patrimoine, oui, s'était bien améliorée de ces époques-là. Là, on est en train de chuter terriblement.
On avait des ministres de la culture qui étaient à la hauteur.
On avait des ministres de la culture à la hauteur.
Là, une compétence.
Là, on est en train de chuter terriblement. Et là, il y a l'attaque inédite. Enfin, pas inédite parce qu'ils essayent régulièrement de le faire, mais là, c'est très menaçant.
Dites-nous.
Contre les architectes des bâtiments de France. Les architectes des bâtiments de France sont là pour veiller à l'application de la loi du Code du patrimoine pour qu'on ne fasse pas n'importe quoi n'importe où.
Et ce sont des conservateurs, si je comprends bien.
Ce sont des architectes qui viennent.
Ils sont là pour préserver
et
transmettre.
Et ils ont des avis conformes. Ça veut dire que quand il y a des projets et qu'ils disent non, ça abîme le patrimoine, on ne peut pas faire comme ça, on peut discuter avec eux. Et puis ils arrivent souvent à dire c'est bon, on peut y aller. Mais quand ils disent non, normalement ils disent non.
Vous savez comme moi qu'il y en a qui est certain, et je connais beaucoup des locaux qui me disent « Ah, on a un ABF un peu pointilleux. »
Oui, mais alors, ça existe toujours. Vous avez des ABF trop pointilleux, vous avez des ABF pas du tout pointilleux.
Au contraire, voilà.
On en voit beaucoup à Paris où ils font pas grand-chose. Mais ça, c'est humain. C'est-à-dire que quand vous avez une fonction, bah, il y a des gens qui l'exercent plus ou moins bien. Mais c'est nécessaire. C'est pas parce qu'il y a des gens qui font peut-être moins bien leur travail qu'il faut tout casser.
Et là, l'attaque vise à quoi? L'attaque prétend quoi?
Bah, c'est Vincent Jeanbrun, je crois, ministre, donc un ministre du logement.
Monsieur Jeanbrun, ministre du logement. Il a fait parler de lui récemment.
Oui, mais je sais pas où ils vont maintenant les chercher, les ministres, peu importe, c'est pas grave. Mais qui a décidé de s'attaquer aux ABF. Et parce qu'il faut construire, eh bien, de laisser la porte ouverte à tout.
Alors que c'est lui le ministre qui devrait au contraire les défendre.
Mais bien sûr. Enfin, le ministre qui devrait les défendre, c'est le ministre de la Culture.
Oui,
la culture.
Mais...
on n'entend pas beaucoup, j'espère qu'il va se prononcer. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de très grave. Il veut supprimer cet avis conforme dans des endroits où il devrait avoir lieu. On met en place des opérations spéciales où il faut construire absolument. Et là, plus aucune règle. Donc, le Code du patrimoine ne s'appliquera plus. L'ABF dira, bah non, il ne faut pas faire ça, mais il n'aura aucun pouvoir. Et donc, ça occasionnera des destructions comme on a pu en avoir dans les années 60-70, quand André Malraux a fait les secteurs sauvegardés. Bah là même, les secteurs sauvegardés ne seront plus sauvegardés puisque l'ABF doit donner son avis conforme.
J'espère qu'il y a une initiative qui est prise pour...
Alors, oui, bien sûr, il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent, donc il y a des choses qui sont en route,
bon,
donc on en saura plus bientôt.
Vous nous tiendrez au courant,
mais
bien entendu.
C'est très inquiétant parce qu'ils vont en procédure d'urgence, ils commencent par le Sénat, ils veulent continuer avec l'Assemblée nationale en septembre, mais une procédure d'urgence, ça veut dire qu'évidemment, on veut aller vite.
Je vois mal les parlementaires actuels, ceux que l'on connaît, quel que soit le parti politique, ne pas réfléchir aux conséquences de
En tout cas, nous faisons ce qu'il faut pour les avertir.
C'est sûr que le logement est important, qu'on a une crise du logement.
Bien sûr.
Mais on ne touche pas au patrimoine sous prétexte que...
On ne peut pas construire n'importe comment. Prenons un exemple, si on a le temps.
On a tout le temps.
Vincent Jeanbrun a dit les ABF empêchent de mettre des volets. Ce qui est complètement n'importe quoi. Dans des volets, il y en a sur beaucoup de bâtiments anciens. Simplement, on ne peut pas mettre n'importe quel volet. Ce dont rêve Vincent Jeanbrun et tous les gens comme lui, ce sont des volets en PVC roulants. Non. On peut mettre, par exemple, à Paris, les immeubles haussmanniens avaient des volets, ils ont des volets qui s'ouvrent, qui sont très protecteurs contre le soleil, et qu'il faut mettre, bien sûr, et sur les monuments où il n'y a pas de volets extérieurs, où il n'y en a jamais eu, on peut mettre des volets intérieurs. Donc, il y a toujours des solutions. Mais lui, il aimerait mettre des volets en PVC, et effectivement, les ABF sont contre les volets en PVC, et ils ont raison. Parce que ça détruit le paysage, ça détruit la beauté. La beauté appartient à tout le monde. Quand on s'attaque à cela, quand on s'attaque au paysage, on s'attaque aux plus pauvres, à ceux qui n'ont pas d'œuvre d'art chez eux, à ceux qui veulent voir à quoi ça sert de vivre dans un endroit où on peut se loger, mais où rien n'est beau. Il faut pouvoir se loger, c'est normal, mais c'est pas comme ça qu'on va le faire.
Ça commence toujours par ce genre de petits détails, de concessions en renoncement, et puis un jour vous avez Notre-Dame de Chartres et de Paris transformée en grande surface.
Exactement.
Avec l'enseigne de la grande distribution.
Exactement. Ce que voudraient certains, c'est conserver quelques grands monuments, et puis après on peut faire ce qu'on veut. Non, la beauté, on en parlait tout à l'heure, la beauté d'un pays, c'est un lavoir, c'est une petite maison paysanne, c'est un petit quartier de ville où il n'y a pas de grandes maisons, pas de maisons exceptionnelles. À Paris, par exemple, il y a beaucoup de maisons de faubourg qui ne sont pas exceptionnelles en elles-mêmes, mais qui forment un tissu urbain très beau. Ce que détruit la mairie de Paris en voulant détruire beaucoup de choses, en s'attaquant à la commission du Vieux Paris. Ça, c'est la dernière idée d'Emmanuel Grégoire, qu'on a pu, pour le moment, on va plus s'y opposer, mais ça va revenir bientôt. Donc voilà, tous ces gens-là, aussi bien le gouvernement que Emmanuel Grégoire, s'attaquent au patrimoine. Ils pensent qu'ils sont modernes, mais en fait, ils sont rétrogrades. Ce sont des ringards.
Vous restez avec nous, vous nous appelez surtout au 0826 300 300. Emmanuel Galasso attend votre appel parce que vous avez Didier Rickner en ligne. Est-ce que vous avez du côté de chez vous un monument historique, une œuvre d'art, une chapelle, une église que vous estimez mal connue ou que vous estimez en danger, que vous voudriez nous parler parce qu'on peut y aller? Est-ce que vous aussi vous avez décidé quelquefois on va rester en France, pas seulement pour aller se dorer la pilule sur les bords des plages et manger des pains bagnats ou des pizzas, mais d'aller découvrir ce patrimoine artistique, parce que c'est une vraie thématique, c'est un vrai sujet, et en cette époque, je vais pas dire un peu barbare, un peu païenne, le fait de se réapproprier ce merveilleux patrimoine qui est exceptionnel, même s'il n'est pas aussi important que celui d'Italie, c'est une façon d'aimer la France et de faire un peu de patriotisme en restant à la maison. Si vous êtes sensible à cette idée, à cette suggestion, appelez-nous au 0826 300 300, et vous restez sur Sud Radio, et Didier Rickner répondra à vos interrogations et à vos suggestions.
Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Legas.
Vous êtes bien sur Sud Radio, il est 13h32, je reçois Didier Rickner. Nous parlons patrimoine culturel, artistique, architectural, de bonnes raisons de rester en France cet été, ou d'autres années, ou d'autres étés. Alors, soit vous décidez de rester uniquement pour ça, soit vous êtes quelque part en France, et vous êtes passé à côté d'une chapelle, d'un manoir, d'une œuvre d'art, d'un musée merveilleux, peu connu, et Didier Rickner les connaît tous, voilà, c'est pour ça qu'il faut aller sur son site.
Hélas, non,
la Tribune ne vous connaît pas tous, mais enfin, il y connaît tous ceux où il faut aller, et vous consultez la Tribune de l'Art. Mais dans ce patrimoine architectural et culturel, artistique, il y a un autre patrimoine qui aussi nous fait rêver, c'est le patrimoine fromager français. Tout ça est souvent lié. Nos appellations d'origine de vin et de fromage sont souvent liées quelque part à une histoire locale, à une féodalité, à une cité, à une tradition, à un savoir. Tout ça est ensemble, et notre patrimoine gastronomique, il est partie intégrante de notre patrimoine artistique et culturel. Nous avons en ligne Frédéric Michaud. Bonjour Frédéric Michaud.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général adjoint d'Opinionway, chargé des études d'opinion, et vous avez fait, Frédéric Michaud, une enquête qui me tient beaucoup à cœur. Un sondage, vous avez sondé les fromages de France, les Français et leurs fromages. C'est un sondage qui dit quoi? Quelle était la question, Frédéric Michaud?
Alors, c'est un sondage que nous avons réalisé pour l'Académie Formos auprès d'un échantillon national représentatif d'un millier de personnes, qui a été réalisé à la toute fin du mois de mai, du 20 au 21 mai très exactement. Donc c'est vraiment un sondage qui a été réalisé dans les règles de l'art, et nous avons posé plusieurs questions. La première question: parmi ces 15 fromages préférés des Français, lequel selon vous représente le mieux la France?
Lesquels étaient-ils, les 15 candidats au départ?
Alors, on avait pris en fait la liste des fromages préférés des Français.
Je rappelle, il y a 46 AOP, vous n'alliez pas aller prendre toutes, ça le fromage, le sondage aurait été très compliqué. Vous avez pris les 15, on peut dire, les plus connus.
Voilà, les 15 les plus connus. Alors, ce qui ressort en premier parmi, pour les Français, le fromage qui représente le mieux la France, c'est le camembert, cité par 44% des Français. Et c'est vraiment la réponse la plus citée par les Français. La deuxième réponse, elle est très loin derrière, c'est le comté, 12%, puis le roquefort, 10%. Tous les autres fromages que nous avons testés sont sous la barre des 5%. Le brie, le Cantal, 4%, le Reblochon, 4% également, la Tome de Savoie, le Beaufort, le Saint-Nectaire, tous les trois à 3%, le Bleu d'Auvergne, le Münster, 2% chacun, et puis à 1%, le Crottin de Chavignol, le Morbier, le Saint-Marcellin, l'Ossau-Iraty. Si on regarde maintenant par type de fromage, ce sont d'abord des fromages à pâte molle, qui sont cités par 56% des personnes interrogées, ensuite des fromages...
Pâte molle à croûte fleurie, le nom exact, voilà.
Exactement, merci pour cette précision. Et fromage à pâte pressée, 28%. Les fromages bleus sont cités seulement par 12% des Français. Donc vous voyez, le fromage qui représente le mieux la France, c'est le camembert. Et on a demandé aussi aux Français le fromage qui représente, selon eux, le mieux les Français et non pas la France. Eh bien, c'est également le camembert qui est cité en tête, là, à hauteur de 46%. Il n'y a pas vraiment de décalage. C'est donc le camembert qui représente le mieux à la fois la France et les Français.
Incroyable, Frédéric Michaud, parce que ça ne s'invente pas. Le camembert est déjà, dans la légende, un des emblèmes de la gastronomie française et de la France. Hein, le Français avec sa baguette de pain, son béret basque et son camembert sous le bras. Et pourtant, le camembert, qui est vraiment un fromage patrimonial, emblème de la Normandie, les vaches normandes, le bocage normand, fromage vraiment populaire, qui a beaucoup souffert parce qu'il est tombé dans le domaine public en 1926, donc on peut fabriquer du camembert tout court, je dis bien tout court, partout en France et en Europe sans aucune contrainte, et les industriels ne s'en privent pas et appellent camembert quelquefois des fromages qui n'en sont pas, mais il y a l'authentique camembert qui est le camembert de Normandie d'appellation d'origine protégée, avec une aire de production et d'appellation qui est bien délimitée, avec des protocoles d'élaboration et non pas de fabrication, avec évidemment du lait cru essentiellement, de vaches normandes si possible, et on voit bien qu'aujourd'hui le vrai camembert de Normandie au lait cru, eh ben, il est l'emblème de la France et représente les Français. C'est un signe politique quand même pour vous ou non, Frédéric Michaud ?
Oui, alors c'est la deuxième question que nous avons posée et qui montre très clairement que pour les Français, le fromage est perçu comme un pilier de l'identité culturelle. 92% des Français, c'est-à-dire à quel point c'est consensuel, hein, sont d'accord avec l'idée que les fromages sont un élément essentiel de la culture française.
Des monuments.
Dans le même ordre.
Oui, je vous écoute.
Oui, dans le même ordre d'idées, et assez logiquement, 80% des Français nous disent qu'il faudrait enseigner dès l'école primaire les enjeux agricoles et les méthodes de fabrication de nos fromages. Donc on a un patrimoine et il faut évidemment le transmettre aux jeunes générations.
Le préserver, autre élément. Le préserver et le transmettre, évidemment.
Alors justement, sur la préservation, là, vous avez raison, c'est très clairement perçu par les Français. Hein. 94% des Français sont d'accord avec l'idée qu'il est nécessaire de maintenir l'existence des AOP fromagères. Donc là aussi, il y a des réponses très nettes.
Le code est républicain, parce que c'est une valeur républicaine, l'appellation d'origine.
Et je dirais même que, au-delà de la défense, il y a une sorte de promotion qui doit être faite des fromages. 87% des Français disent que les fromages français ou les crus doivent être inscrits au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Donc on est vraiment dans cette idée de la défense et aussi la promotion d'un élément central de notre gastronomie.
Que de bonnes nouvelles, Frédéric Michaud. Merci pour ces informations. Vous restez avec nous. Didier Rickner, d'abord, ces fromages sont sur des territoires. Le Pays d'Auge, tout ça, il y a des endroits, des chaumières, des monuments historiques. Et l'idée que les Français aient cette prise de conscience sur ce patrimoine, qui est un patrimoine agricole alimentaire, les fromages qui sont des petites œuvres d'art, vous en convenez, je suis persuadé que vous êtes vous-même très amateur de ces fromages. Est-ce qu'on peut faire une collusion entre, voilà, tout ça c'est le patrimoine culturel de la France?
Non, mais par exemple, je recherchais, mon fromage préféré n'est pas cité là, et son nom m'échappe, c'est terrible, mais c'est près de Semur-en-Auxois. Semur-en-Auxois, où il y a un très très joli musée, un petit musée que les gens ne connaissent pas, qu'il faut aller voir, Semur-en-Auxois.
Le Sous-Maintrain.
Et près de Semur-en-Auxois, il y a un fromage.
Le Sous-Maintrain.
Non, et son nom m'échappe, c'est terrible.
Alors les poisses.
Les poisses, voilà.
Les poisses, bien sûr.
Les poisses, c'est un fromage extraordinaire.
Grand fromage français. Une pâte très odorante, voilà.
C'est très fort.
Un
très
survivant, parce qu'il a subi toutes les souffrances possibles, parce qu'il était au lit cru, il y a eu soi-disant un accident, c'était pas vrai. Et les poisses, c'est toujours là, notamment
toujours
avec les maisons qui s'appellent
les
Amberto.
Non, c'est merveilleux, les poisses.
Voilà. Mais les poisses, c'est très fort, hein. C'est un fromage qui est...
Mais bon. Moi, j'aime ce qui est fort.
Comme dirait Lino Ventura, c'est plutôt un fromage pour homme.
Pour moi, c'est lié à un territoire, pas un territoire, une province, oui. Et c'est lié à Semur-en-Auxois qui est pas très loin.
Magnifique.
Et Semur-en-Auxois est une très belle ville. Avec un petit musée, mais un petit musée du genre 19e siècle, qui n'a pas bougé depuis le 19e siècle, qui est assez extraordinaire. Allez le voir si vous visitez la région. Donc voilà, c'est lié, bien sûr. Évidemment, ça fait partie de la, excusez-moi, je vais dire quelque chose d'un gros mot, mais c'est l'identité de la France. Ça fait partie de notre pays.
Frédéric Michaud, quand vous avez réalisé le sondage, vous avez pris conscience quand même qu'il y avait une conscience nationale sur le patrimoine fromager. C'est une partie de l'identité de la France, comme dit Didier Rickner.
Oui, exactement. Là, c'est vraiment très clair. C'est un point de consensus, en fait, dans la population française. Et c'est un élément qui, pour les Français, est à même de les réconcilier. On parle beaucoup de division, de tension, a fortiori à l'approche de l'élection présidentielle.
Oui.
Là, on a 54% des Français qui nous disent que parler politique autour d'un plateau de fromage peut réconcilier les points de vue. Donc c'est aussi un élément qui facilite la discussion et la bonne entente entre les Français.
Bien entendu, je pense que l'instant de table, et on connaissait l'expression du banquier républicain, je pense que l'instant de table est un instant de sensorialité, de partage et de convivialité. Et lorsque l'on discute et d'un débat d'un sujet même épineux, si on a dans son assiette et dans son verre quelque chose qui nous rassure, qui nous rend plus aimable, qui nous donne du plaisir, je pense que le dialogue et la confrontation sont moins violentes que si on est sur un ordinateur ou sur son téléphone. Frédéric Michaud, donc si les Français élisaient un fromage à la présidence, ça serait visiblement le camembert, peut-être qu'il mettrait plus de gens d'accord. On peut en déduire quand même que les Français sont conscients, il y a tellement de fromages industriels, tellement de marques, je vais pas les citer, tout le monde les connaît, on a été bercés depuis notre enfance, je vais juste citer la vache qui rit, qui fait partie, pour rappeler que c'était du comté fondu, qu'on pouvait pas vendre les meules et en transformer, aujourd'hui on est loin de ce produit-là. Est-ce que pour autant il y a une conscience nationale qui a un patrimoine fromager qu'il est important de préserver? Est-ce que ça, le sondage le dit clairement?
Alors ça, oui, ça c'est vraiment une évidence. D'ailleurs, ça n'exclut pas des comportements qui ne sont pas alignés avec les opinions.
On peut manger les deux. On peut manger un fromage industriel et comprendre qu'il y a du génie dans le camembert, dans le comté et dans le roquefort.
Exactement, et puis chacun a le droit d'être contradictoire après tout. Mais oui, ce qui est très net dans l'étude, c'est de voir à la fois l'existence de ce patrimoine qui est vraiment un trésor qu'il faut protéger, et puis aussi, je dirais, moi ce qui nous a surpris au moment d'analyser cette étude pour l'Académie Formos, pour laquelle nous travaillons depuis quelques années maintenant, c'est de voir à quel point ce patrimoine n'est pas quelque chose de figé, mais qu'au contraire, quelque chose qu'il faut transmettre, qu'il faut faire vivre, qu'il faut entretenir, qu'il faut défendre évidemment, mais aussi dont il faut faire la promotion et la publicité. Voilà, ça, je trouve qu'il y a quelque chose de très positif et de très réjouissant dans cette
très
conception
important.
Dynamique du patrimoine.
Signal politique très important, les Français tiennent à leur appellation d'origine parce que c'est un instant l'identité de la France. Alors, on a parlé du camembert, du comté, du roquefort, nous n'oublions pas le Saint-Nectaire, le Münster, le reblochon, l'osso irati, bien sûr, les fromages de chef du Val-de-Loire, Valençay, Sainte-Maure-de-Touraine, Pouligny-Saint-Pierre, Crottin-de-Chavignol, toutes ces merveilles, le Motté du Poitou qui vient d'arriver, je vais pas tous les citer, bien entendu, et en Normandie, le camembert, le roi du camembert, n'oublions pas surtout le Livaro, qui est formidable, et puis un des rois des fromages normands, qui est tout simplement le pont l'Évêque, où là aussi il y a de beaux monuments, de belles églises. Merci Frédéric Michaud pour ce témoignage.
C'est moi qui vous remercie.
Et puis, non, mais on aura l'occasion de se reparler à la rentrée parce que je pense
avec
que
plaisir.
Cette histoire de patrimoine français a encore des secrets qu'il faut révéler aux Français. Merci et bel été. Didier Rickner, quand vous voyez aujourd'hui ces Français soucieux de préserver un patrimoine, est-ce que l'État a bien fait ce qu'il fallait pour que les Français soient conscients? Non pas, il y a le ministère de la Culture, il a fait ce qu'il peut depuis Malraux. Est-ce que la France met bien en valeur ce patrimoine pour dire aux Français, allez le visiter, allez vous l'approprier, allez le partager, c'est à vous.
J'ai pas trop l'impression, parce qu'on n'entend pas beaucoup de campagnes de publicité sur cela. C'est peut-être au ministère du Tourisme, plus qu'au ministère de la Culture de le faire. En tout cas...
Les régions le font plus.
Les régions sont
c'est
le
quoi
plus,
c'est
oui.
des routes et des... Ce que vous disiez, il y a des routes,
routes
et des dépliants.
Oui, il faut à la fois le faire connaître, le faire savoir que c'est très beau, et qu'il y en a partout.
Et à l'école, est-ce que ça se dit à l'école,
À l'école, vous savez, moi je mis depuis très longtemps sur l'histoire de l'art à l'école, et en fait il y a une histoire des arts qui n'est pas du tout une histoire des arts, c'est la seule matière que n'importe qui peut enseigner à l'école, hein. Les bien mathématiques, on les ferait pas enseigner par n'importe qui, là on fait l'histoire de l'art. Donc oui, il y a des écoles, il faut reconnaître qu'on va dans les musées, on voit des classes d'enfants, il y a des professeurs qui font cela, et c'est très important, et tout le monde, toute école a près de chez elle un monument, un musée, une église qu'elle peut visiter.
Près de chez soi.
Important.
Près de chez soi. Vous restez avec nous, vous êtes sur Sud Radio, il est 13h44, je suis avec Didier Rickner, appelez-nous au 0826-300-300, je suis persuadé, je sais que dans votre région, dans votre territoire, dans votre province, j'adore ce mot, il y a des trésors qui sommeillent, qui sont connus ou pas connus. Est-ce qu'il y a des endroits où vous avez envie d'aller, que vous avez envie de recommander? Est-ce que cet été vous allez rester en France parce que justement vous voulez en profiter pour découvrir ce patrimoine méconnu? Eh bien vous nous appelez au 0826-300-300, Emmanuel Guélasso attend votre appel, et Didier Rickner vous fera des suggestions ou vous dira ce que vous croyez aimer en vaut la peine. A tout de suite sur Sud Radio.
Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Legas.
Vous êtes bien sur Sud Radio, il est 13h47, je suis avec Didier Rickner, directeur de la Tribune de l'Art et du site La Tribune de l'Art, où vous pouvez évidemment trouver quelques informations concernant des œuvres d'art, des monuments secrets, et pour lesquels dont Didier Rickner vous révèle évidemment les charmes et les vertus. Nous avons Hervé qui nous appelle d'Antony en région parisienne. Bonjour Hervé.
Bonjour.
Bon, vous êtes inquiet, vous considérez que la République préserve mal son patrimoine culturel.
Exactement, je suis très déçu par Jean Brun qui était un républicain autrefois, je ne sais pas ce qu'il est maintenant.
Non, c'est pas non plus.
D'accord, j'ai dit tout, là, je ne sais pas.
Non, vous avez pas mis de haut-parleur dans votre... Mettez pas du...
Non, j'ai pas mis le haut-parleur.
Bon, on vous entend très bien, en tout cas. Allez-y, on vous entend.
Moi, je suis inquiet aussi parce que je vois que les médias ne relaient pas beaucoup les églises qui brûlent régulièrement, alors en France et en Europe en particulier. Donc, c'est une attaque. Et donc, il y a une partie, c'est vrai qu'il y a une partie du personnel politique, disons, qui est plutôt à l'extrême gauche. Et ça a déjà existé dans l'histoire, ça a existé sous la Révolution française. Qui se fait un malin plaisir à dénigrer tout ce qui a été construit par nos ancêtres français, voilà.
Oui, c'est pas la majorité de la classe politique, je vous rassure. Non, mais il y a quelques individus, effectivement, qui sont un peu sur du passé faisant table rase, et on passe, voilà, à la moulinette un patrimoine qui pourrait évoquer des grandeurs nationales de la France, et on sait bien que tout ça est interdit. Didier Rickner, l'inquiétude d'Hervé est légitimée ou non?
Il y a des incendies dans les églises, hélas, il y a des incendies dans les monuments historiques en général. Je n'ai pas connaissance qu'il y ait particulièrement des incendies criminels, ce sont des incendies qui peuvent être par négligence.
Il y a eu un cas ou deux dans Lyon,
oui,
justement.
Ça arrive, bien sûr, malheureusement, ça arrive. Bien sûr.
À Sens.
Mais je pense que c'est surtout un problème de surveillance, de normes, enfin pas de normes, j'aime pas les histoires de normes, faut se méfier. Il faut des normes pour les incendies. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les protections incendies nécessaires. Notre-Dame a brûlé, c'était un accident, mais un accident qu'on aurait pu éviter parce qu'on n'avait pas mis tout ce qu'il fallait.
On n'en sait rien, hein.
Si. Je connais bien le sujet, j'ai étudié, j'ai enquêté dessus, j'ai fait un livre dessus. Je peux vous assurer que c'est un accident. C'est un accident, mais c'est un accident qui aurait pu être évité, surtout sur lequel on n'a rien fait pour l'empêcher. Et c'est ça qui est grave. C'est ça qui est le plus grave, je pense. Donc, il y a, et malheureusement, actuellement, je ne donnerai pas le nom des églises, mais il y a de grandes églises qui ne sont pas du tout protégées contre l'incendie.
Oula.
Alors, on a fait un plan. Alors, je veux pas le dire parce que je veux pas donner des idées à certains.
Oui.
Mais on a fait un plan, cathédrale après Notre-Dame qui a eu des effets.
Transmis aux autorités compétentes.
Oui, dans un plan pour mettre des dispositifs qui préviennent les incendies. On nous dit maintenant tout est parfait, c'est pas vrai, tout est pas parfait. Et puis surtout, il y a de grandes églises qui ne sont pas des cathédrales et pour lesquelles il n'y a même pas de détection incendie. Donc c'est complètement fou.
Donc on n'est pas à l'abri un jour d'une mauvaise nouvelle.
Bien sûr, c'est complètement fou. Donc il faut absolument le dire, il faut mettre tous les atouts de notre côté et surveiller ce patrimoine, mettre des détections incendies, mettre des détections aussi contre les intrusions. Quand chez moi j'ai une détection incendie, bah, je la mets, c'est obligatoire. Bah, pourquoi pas dans les monuments?
Ça suppose un budget, évidemment.
Pas énorme. Pas franchement, énorme. Ça, c'est pas des. Par monument, c'est pas énorme.
Hervé, vous avez le témoignage près de chez vous de monuments historiques abîmés ou qui sont mal préservés, dont vous auriez voulu.
Justement, là, je suis dans la banlieue parisienne. Je connais un peu le Val-de-Marne aussi. Bon, et je trouve que les autorités municipales font des efforts depuis plusieurs années pour mettre en valeur le petit patrimoine historique qui est important.
Ils font de la restauration.
Dans quelle ville?
Ils font de la restauration.
Dans quelle ville?
Où ça?
À Villeneuve-le-Roi.
À Villeneuve-le-Roi, bien sûr, oui, qui est une jolie ville.
Il y a heureusement des villes et des maires qui sont conscients de tout cela. Beaucoup ne le sont pas.
Sûr.
Beaucoup ne le sont pas, malheureusement. Mais il y en a, il faut les célébrer.
Didier Eichner, quelle marge de manœuvre a un maire? Alors, s'il est d'une commune qui a des moyens, pas de moyens.
Oui,
s'il a une église, alors il appelle Stéphane Bern, là aussi.
Oui, mais moi, je suis frappé quand je me parle à l'enfant, justement. Je vois parfois de toutes petites communes, des communes qui ont peut-être 50, 100, 200 habitants et qui ont un patrimoine magnifique, par exemple dans le sud, et ils arrivent à le restaurer. Parce que c'est compliqué. Il faut trouver l'argent. Mais l'argent, si on veut vraiment le trouver, on arrive à le trouver. Il y a des aides de toutes parts, on peut le faire.
Il y a du mécénat.
Et il faut le faire. Mais il y a beaucoup de maires qui s'en fichent, qui disent, de toute façon, on n'a pas l'argent, c'est trop coûteux. Pourquoi ne pas détruire l'église? Ça arrive de temps en temps.
Il y a aussi ces options. Merci Hervé pour votre témoignage. Nous avons Cyril qui nous appelle de Bordeaux. Bonjour Cyril.
Oui, bonjour. Bon, merci de votre émission. Où la parole est libre et on dit des choses bien.
Oui, c'est essentiel pour nous, c'est le parlons vrai, et nous sommes toujours très soucieux que les gens qui nous écoutent, qui nous appellent, puissent dire ce qu'ils ont à dire, j'allais dire dans le respect toujours de la loi républicaine. Cyril, je suis ravi de votre appel parce que vous allez nous parler d'une église peu connue, mais qui a une belle histoire.
L'église d'un petit village qui s'appelle Mazion, on est près de Blaye.
Oui.
C'est une église qui est peu considérée dans son architecture, puisque c'est une église néo-gothique. Du 19e.
Oui.
En 2016, il y a un mécène privé, natif de ce petit village, qui a fait une très belle donation, qui a permis de refaire entièrement cette église, y compris les tableaux, les lustres, un chemin de croix qui a peu d'intérêt, mais il est très bien refait. Donc on voit cette église dans l'état où elle a été livrée à l'époque. Et ça permet de changer notre regard sur des églises 19e, néo-gothique.
Et on reste en plus, encore une fois, dans un vignoble de blé et bourg.
Alors,
la paroisse de blé et bourg et Blaye et bourg.
Je connais un peu Blaye, mais pas l'église de Mazion. J'irai regarder, effectivement.
Bien sûr.
Le néo-gothique, c'est très important parce qu'une grande partie des églises en France ont été construites au 19e siècle. Beaucoup dans le style néo-gothique. Et quand on parlait d'églises qui ont été détruites, alors là, bravo au maire de Mazion d'avoir, et puis au mécène qui a permis cette restauration. Je pense à une église en Maine-et-Loire, à Gesté, G-E-S-T, une église exceptionnelle qui était néo-gothique. Quand on arrivait à Gesté, c'était il y a quelques années, on voyait l'église qui dominait le village, et bien le maire l'a détruite.
Bien sûr.
Entièrement.
Bien sûr, ça arrive.
Alors qu'il aurait pu la restaurer, et que le ministère de la Culture aurait dû la protéger, elle a été détruite, c'est quand même fou.
Et là, la Cyril, ça a été une prise de conscience collective quand même, en dehors de la municipalité, les habitants étaient aussi impliqués dans la préservation de cette église de Mazion.
La mairie a été fortement impliquée, les habitants, j'en ai pas l'histoire, donc je peux pas vous le dire, mais je peux vous parler d'une petite église voisine dans un village qui s'appelle Générac, toujours dans le Blayé.
Oui.
Ou petite église romane très ancienne, 11e, 12e.
Il y en a beaucoup dans cette région-là, des églises romanes.
Voilà. Et la mairie a monté une association pour préserver son bien. Et les villageois, une fois par mois, vont faire des travaux dans cette église pour préserver leur patrimoine. Et dans l'équipe qui fait les travaux, finalement, il y a très peu de pratiquants, pas forcément des croyants, mais ils sont là pour aimer ce lieu qui est un symbole de leur village.
Donc il y a une conscience citoyenne, quand il y a un patrimoine à préserver, il y a de la mobilisation.
C'est très important, mais je mets un petit bémol, c'est peut-être le cas d'ailleurs là, quand les paroissiens veulent intervenir pour nettoyer leur église, il faut absolument qu'ils soient encadrés par des spécialistes. Parce que on ne peut pas toucher aux œuvres d'art ou à l'architecture sans qu'il y ait des risques. C'est un métier, hein, il faut savoir.
En
restaurer.
Général, il y a toujours un ABF qui
pas
surveille.
Toujours, j'ai eu un cas à Paris récemment où ça a valu un peu des échanges assez musclés avec le curé. C'est le curé de Saint-Eustache qui appelait les volontaires à venir et j'ai pu constater de mes yeux qu'il mettait de l'eau cédar sur certaines œuvres, ce qui n'était pas bien.
Cyril, c'est pas le cas dans les deux cas que vous nous citez.
Alors, dans cette église, elle avait été en effet mal restaurée il y a 40 ans. Où on avait mis des enduits qui ne sont pas conformes et qui finalement abîment les murs. Et cette fois-ci, ils se font accompagner par une spécialiste de restauration d'église qui fait ça bénévolement.
Bon, mais ça c'est l'essentiel. Un directeur, il faut toujours être vigilant sur la préservation des matériaux.
Il faut une vigilance et il faut que... Moi je tape souvent sur le ministère de la Culture, mais il a un rôle à jouer, la DRAC, les directions régionales des affaires culturelles, doivent être inverties. Et il faut simplement qu'il y ait un contrôle par une personne qui connaît et qui veille à ce qu'on ne fasse pas n'importe quoi. Mais sinon, il faut évidemment encourager le volontariat. Mais ça, donc créer une association, c'est une chose qu'on peut faire. Il y a beaucoup de choses qui permettent de trouver de l'argent, et il faut le faire, mais il faut se battre.
En tout cas, nous savons que, voilà, on se mobilise les uns et les autres, peut-être pour protéger notre patrimoine alimentaire, agricole, les fromages, les vins, mais surtout ce patrimoine culturel et artistique essentiel. Merci Didier Richtner d'avoir témoigné. Je rappelle votre site à la Tribune de l'Art. On va, c'est .fr, tribunedelart.com. Et si vous vous trouvez dans une région où il se passe quelque chose et que vous avez envie de découvrir quelque chose d'inconnu, vous allez sur Tribune de l'Art et vous avez l'explication.
Avec un peu de chance, vous aurez les
si
œuvres de l'église.
Bien
sûr. Encore une fois, c'est pas complet, forcément.
Mais c'est déjà une piste.
Il y a des milliers d'œuvres, mais elles n'y sont pas toutes.
Voilà, je vous laisse avec Brigitte Lahaye pour des considérations plus sentimentales et je vous donne rendez-vous à demain 2 juillet pour l'ultime émission de cette saison et on essaiera de vous organiser un petit instant festif. Merci à tous, à demain sur Sud Radio.